19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez comme chaque soir, et nous sommes vendredi. Beaucoup, évidemment, rentrent de leurs vacances, semaine de vacances, mais beaucoup aussi vont pouvoir profiter de leur week-end. Eh bien, sachez-le, au menu ce soir, nous allons vous accompagner par trois sujets qui ont retenu notre attention. Mais vous le savez, les informés, c'est d'abord commenter, décrypter, analyser. Avec trois débatteurs, influenceurs qui sont avec nous. Tout à l'heure, à 19h30, l'imminent, la signature comme chaque vendredi, eh bien c'est avec Michel Taube, le patron d'Opinion International, qui viendra nous livrer son regard, sa signature sur la candidature d'Emmanuel Macron. Ouais, j'en ai vu des choses, hein, qui sont commentées sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui a retenu notre attention aujourd'hui, vous le savez, c'est cette guerre en Ukraine, on la commente tous les jours, ici même sur ce plateau. Ce que l'on sait de cette attaque de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, visée par des tirs russes. En même temps, vous savez, vous avez le président Zelensky qui demande de renforcer les sanctions contre Moscou après cette attaque contre la centrale nucléaire. Présidentielle, Sandrine Rousseau, exclue de la campagne de Yannick Jadot. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sent le roussi, ça ne sent pas bon au sein des écolos. On en parlera tout à l'heure et on tentera de comprendre la raison pour laquelle, eh bien, Sandrine Rousseau a claqué la porte. Autre sujet qui est également extrêmement commenté, c'est la candidature d'Emmanuel Macron avec cette lettre adressée aux Français dans la presse régionale. Eh bien, beaucoup considèrent que c'est déplacé et on va en parler ici même dans les informés sur Beurre FM. Vous aussi, au 01 53 48 3000, c'est le seul numéro partout en France. Comme vous le faites chaque soir, vous nous appelez et vous commentez l'actualité avec nous. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, on y tient absolument, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Bonsoir messieurs, le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Attention, celui que vous voyez, que vous entendez aussi régulièrement sur les ondes de Beurre FM. Akli Mellouli, monsieur le maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne, bonsoir.
Bonsoir, il fait beau, non?
Il fait bon. Il fait bon ou il fait beau?
Non, il fait bon.
Il fait bon.
Moi, j'ai un petit air.
Moi, j'ai la côte touchée et je prenais sur moi quand je faisais le sommaire parce que ça me faisait mal à chaque fois que je prends ma respiration.
Moi, je disais qu'il fait bon parce que c'était pour apporter une note d'optimisme dans la
bon, on va en parler, monsieur. Ouais. Il y a John qui est venu avec Maître Levinsky qui me dit, qui me regarde, je sais pas pourquoi il sourit. Qu'est-ce qui vous arrive, John?
John Barlow.
Bonjour l'influenceur, John.
C'est remarquable la façon de s'exprimer comme ça.
Ah bah c'est le métier. Hein.
Ouais.
Ah,
malgré une côte un petit peu touchée.
Vous avez vu, hein. J'ai pris sur moi, vous avez vu ou pas?
Moi j'ai vu.
Je faisais, je ne montrais pas, si c'était à la télé ça se voyait.
Mais oui. Heureusement que c'est la radio.
Ouais. Vous êtes l'ami de Maître Levinsky. Maître, bonjour Maître David Levinsky, quel plaisir de vous revoir.
Ça me fait plaisir aussi de te voir.
Vous avez manqué, franchement.
Ah, ça fait pas si longtemps, ça fait quoi, un mois?
Un peu plus d'un mois.
Je ne compte pas. Bon. Mais je pense à vous tous les jours.
Vous êtes venu avec un influenceur? Qu'est-ce qui se passe?
Je suis venu avec un influenceur, John Barlow. En fait, il animait la quotidienne pendant le mouvement des Gilets jaunes.
Ah oui, je sais bien.
Il faisait plus de 700 000 auditeurs.
700 000, c'est un carton.
Ouais, c'est
à
un
lui
carton.
Seul, il peut ouvrir une télé.
Tout à fait.
Vous connaissez Beurre FM ou pas?
Ouais, Beurre FM. Bah oui, depuis des années, je connais Beurre FM.
Ah bah c'est bien, ça va.
Il est né avec. Il a été éduqué avec.
J'ai grandi.
Avec Beurre FM.
Ouais.
Et alors, John, vous êtes influenceur que depuis les Gilets jaunes?
Ouais, enfin, influenceur, c'est pas vraiment le mot. Je suis
700 000 vues, oui, 700 000. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est d'autre que qu'influenceur?
En fait, on n'avait pas fait ça pour être connu, on a fait ça pour laisser parler les gens, exprimer le mal-être des gens, en fait. Et ce qui a fait qu'on a cartonné, en fait, c'est que y a beaucoup de gens qui avaient des choses à dire. Et au final, ça a partagé.
C'est quoi votre blaze sur Insta?
John Barlow officiel,
si vous voulez aller voir, checker
sur sa page
vidéos.
Facebook.
Qu'est-ce qui se passe avec Akli Mellouli? Vous avez envie de vanner là?
Je vous sens vanner.
T'as vu, il est vanneur.
Il aime pas les gilets jaunes.
Allez, il a droit une clochette. Il aime pas les gilets jaunes, ça se voit. Il aime pas les gilets jaunes.
Pour un maire adjoint socialiste, franchement, je serais très déçu.
Non, mais le problème, c'est qu'on a discuté un peu aussi avec John au début, donc y a pas, j'ai pas à aimer ou pas aimer. Après, c'est, il faut, parce que c'est, ce monde, maintenant, se résume à j'aime ou j'aime pas. C'est pas le but, on n'est pas dans un, dans la vie virtuelle avec des likes, quoi. C'est, on débat de fond. Et il y a des, leurs revendications sont légitimes. Les gens, quand ils revendiquent pas par plaisir, ils revendiquent parce qu'ils souffrent, etc. Et on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tous les cas, il faut entendre les gens. Et quand on est politique, quand on est élu, quel que soit, normalement, on devrait être attentif et à l'écoute, puisque le but, c'est d'améliorer la vie des gens. Oui. S'il y a d'autres buts, alors après, il faut me l'expliquer.
Tiens, John, mettez-moi votre blase et on va aller regarder ça. Je vais le dire à l'antenne, comme ça, c'est très bien. Allez, on va vous faire un peu de promo.
Et moi, j'ai eu un échange très intéressant avec John Barlow hors antenne.
Ouais, et alors, et ça donnait quoi
et tout. C'était riche. Et on a
ça
eu
tient la route
avec maître truc, ça tenait la route.
Maître et... David, il plaisante pas, attention. Ouais, ouais. Un poids lourd, hein, des figures j'ai... emblématiques des Gilets jaunes. Hein.
Oui, oui. mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on se parlait avec. Pas comme les choses circonvenues de posture, mais avec du fond et avec.
Ouais, mais nous, on aime les débats de fond. Hein.
C'est ça qui m'a intéressé.
Nous, on a essayé de débattre. Hein. On a essayé de débattre avec Macron, il n'a jamais voulu débattre.
Bah, il a débattu avec vous ?
Non. Ah, je crois pas, non. Non, il a jamais débattu. Il est débattu tout seul.
Il a fait un grand. Clochette !
Tout seul, ouais. Voilà, vous avez.
Et
je vais y aller doucement parce que, comme a dit, il a du mal à respirer, comme il a une côte descendue.
C'est ça. Je vais la remonter. Allez, messieurs, nous allons parler de ce premier sujet. Vous savez quoi, la guerre en Ukraine, terrible, messieurs, terrible. Avec, évidemment, cette centrale nucléaire, la plus grande d'Europe, hein, d'accord, visée par des tirs russes. Messieurs, j'ai envie de vous dire une chose. Le président Zelensky, lui, dit vouloir demander de renforcer les sanctions contre Moscou après l'attaque contre la centrale nucléaire. Vous répondez quoi ? Akli Melouli. Et ensuite, après, Maître David Libenskid. Voilà, exactement. Et on reçoit celui qui arrive en retard, tranquillement. Tout va bien, ça va ? On vous dérange pas, Amit Shriet ?
Vous avez qu'à demander à Madame Hidalgo. Hein, on a un socialiste avec nous, il vous dira.
Clochette !
Clochette ! Moi, je vais demander le renforcement des sanctions contre Amit Shriet.
C'est ça. Amit Shriet, exactement.
Parce que c'est pas la première fois qu'il arrive en retard.
Pourquoi vous arrivez en retard, évidemment ? Attendez, c'est déplacé par rapport à vos collègues. Pourquoi vous arrivez en retard ?
Les bouchons, Anne Hidalgo, monsieur.
Comment Maître David et Akli Melouli,
notre premier adjoint,
ils ont les moyens. Moi, je ne suis qu'un petit prolétaire, malheureusement.
Maintenant, les gens vont être responsables de tout. La météo, ça va être Hidalgo. La peau de balle, ça va être Hidalgo.
Exactement.
En fait, il faut arrêter. Mais vous parlez d'une.
Enfin, la faillite française.
Allez, on démarre, s'il vous plaît. La guerre en Ukraine, s'il vous plaît. Renforcer les sanctions contre Moscou. À qui veut prendre la parole ? Akli ? Non, franchement, parlons-en. Là, parce que non, mais là c'est préoccupant. Ouais. Il faut qu'on en
c'est
parle.
C'est normal, mais effectivement, c'est le président est dans son rôle de demander des renforcements. Il ne peut pas faire autrement. Il est en train, effectivement, d'essayer de se défendre contre l'invasion. Il est dans son rôle d'appeler. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les sanctions, les gens ont réagi, les sanctions ont été prises. Après, je pense que quand on prend des sanctions, quand on fait quelque chose, il faut le faire dans un esprit de sortir de ce conflit et d'avancer. Et il faut éviter de remettre de l'huile sur le feu. Donc je pense qu'aujourd'hui, on serait. Il faudrait essayer d'apaiser, il faut continuer le dialogue. Ouais. Et je pense que les sanctions.
Mais là, le dialogue ne prend pas. Hein. On a l'impression qu'il ne prend pas parce que la guerre, évidemment, poursuit sa route.
Le dialogue ne date pas.
Et que. Oui.
Adil, le dialogue ne date pas de depuis longtemps. Le dialogue date depuis très longtemps.
Mais il veut quoi, Poutine ? Il veut quoi ? Il cherche quoi, Poutine ?
Bah, l'Ukraine.
Il veut l'Ukraine.
Et les pays baltes, ensuite, peut-être.
Maître Libenskid, donnez la parole.
Bon, ça me fait un petit peu doucement rigoler.
Pourquoi ?
Toute actualité, les sanctions économiques. Mais en fait, Poutine, il s'en fout. Il va envahir l'Ukraine et peut-être demain la Pologne, les pays baltes. En fait, l'objectif de Vladimir Poutine, soit c'est de constituer l'ancienne URSS, qui est tombée dans les années 90, ou soit en fait de reconstituer l'empire tsariste russe. Mais on voit bien que il entend pas en fait. Il continue. Il a l'arme nucléaire, donc il sait très bien. Voilà, il sait très bien que les Américains vont pas intervenir.
On va vous attendre. Attendez. Justement, c'est le principe du débat. Amit Shriet, qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, c'est très facile. En réalité, depuis 2014,
micro, s'il vous plaît.
Depuis 2014, on m'entend ?
Oui, c'est
depuis
bon.
2014, en réalité, il y a des négociations sur la partie du Donbass. On sait qu'il y a une partie russe qui est slave et il y a une autre partie qui ne parle pas la langue slave. Donc, on voit bien que c'est. D'ailleurs, ça fait pas. C'est deux siècles d'histoire, l'Empire russe, je veux dire. Deux siècles avec les tsars, c'est deux siècles d'histoire. Et ce phénomène de balkanisation ne concerne pas simplement la Russie. Je tiens à dire aujourd'hui qu'il y a des États, comme par exemple au Congo.
Alors pourquoi
sur la
pas
question. Attendez, sur la question de la Casamance. Sur la question de la Casamance, sur la question du Polisario, il y a énormément de conflits mondiaux aujourd'hui qui qui sont encore sous des mandats aux Nations Unies, voilà. Parce qu'on parle d'autodétermination, etc. En réalité, M. Poutine, aujourd'hui, on voit bien que, et sous nous, moi je ne suis pas ici pour défendre M. Poutine, l'invasion russe est à condamner, mais il faut aussi replacer cela dans son contexte géopolitique. Mmh. On voit bien que la Russie, à l'époque, a signé effectivement le traité de Varsovie, elle s'est engagée à supprimer l'alliance RFA-RDA, et on voit bien que plusieurs pays européens se sont agrippés à l'Union européenne sans les accords d'abord des peuples européens, et il faut remettre en cause aussi la question de la construction européenne, comment elle s'est construite sur la Roumanie, la Bulgarie, etc. Aujourd'hui, on nous parle de l'Ukraine. Qui a voté pour l'Ukraine? Qui a voté pour cette adhésion-là? Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi remettre en question la question de la démocratisation et de l'architecture européenne.
Alors, après avoir planté, évidemment, après nous avoir rappelé l'histoire, et c'est très important, voilà, elle a tout son sens.
Je pense qu'aujourd'hui.
Il y a Maître Libeskind qui vient d'appuyer, évidemment, là où ça fait mal. Vous répondez quoi? Parce que je vous ai vu secouer la tête à plusieurs reprises.
Moi, écoutez.
Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que ça justifie l'invasion à l'Ukraine?
Écoutez, rien ne justifie, moi je ne justifie aucune guerre. D'accord, mais si nous parlons de l'Ukraine, nous devons aussi parler de la Libye. Nous devons aussi parler de la Libye.
Et vous amène
nous devons aussi parler de l'Irak.
Ben parlons-en.
Et moi, je condamne les euro-atlantistes qui, lorsque les États-Unis ont bafoué le droit international, n'ont rien dit. Et moi, je condamne le double discours.
Parlons-en. Hakim Elouli et Maître Libeskind.
J'ai entendu sur des plateaux télé, j'ai entendu des choses scandaleuses. J'ai vu aussi que des étudiants, parce qu'ils étaient africains ou indiens, ne voulaient pas les laisser passer. Et j'ai entendu des propos racistes en disant les Ukrainiens on peut les accueillir parce que ils sont c'est une bonne immigration. Les autres on pouvait pas. Et quand
auprès des éditorialistes à la télévision.
Les enfants, quel que soit l'endroit. Que ce soit en Libye, en Syrie, ils meurent sous les bombes aussi. Donc l'indignation à géométrie variable, ça suffit, il a raison, ça ne justifie en rien qu'il y en ait d'autres. C'est-à-dire, mais il faut que ce droit international, qui est bafoué depuis des années, qui n'a jamais été respecté par personne, soit respecté.
Donc si je vous écoute parler, Poutine a raison.
Adil, donnez les éléments de contexte. Ou être dans la justice internationale, ce n'est pas donner raison à quiconque.
Ah si, ça veut dire qu'en gros, d'un côté, vous avez des bons gendarmes, et de l'autre, vous avez des mauvais gendarmes.
Ne soyons pas campistes. J'ai dit ça ne justifie pas, mais je dis que le monde, aujourd'hui, doit se regarder. Et, d'ailleurs, sur l'OTAN, l'OTAN aurait dû être dissous. À partir du moment où il n'y a plus la guerre froide, il n'y avait plus besoin de l'OTAN. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui doivent être dépassées, et ça, c'est notre responsabilité. Et je crois que le dialogue doit être
instauré. Attendez, dans l'ordre, s'il vous plaît. Dans l'ordre.
Moi, je n'essaie pas de justifier l'injustifiable. J'essaie juste de dire aux gens qui nous regardent qu'il faut être juste. Rien ne peut justifier la mort, ne serait-ce que d'une personne.
Maître Libeskind.
Non, mais ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais après, bon, il fallait pas dissoudre l'OTAN, puisque bon, on a donc les Russes. Qui sont, enfin, depuis longtemps avec les Chinois, hein, puisque je rappelle que l'URSS était communiste, hein, les Russes étaient. Et la Chine est communiste. Donc il y a une alliance très affective entre.
Enfin, communiste, elle n'est plus, hein, maintenant, elle est plutôt libérale, hein, mais bon, la Chine.
Oui, enfin, bon.
C'est être communiste, libérale, hein.
C'est une dictature. Enfin, David, c'est pas une dictature communiste.
Elle est libérale aujourd'hui, non,
plus. Être communiste, ça veut pas dire être va-t'en guerre non plus, hein.
Je suis d'accord, mais en fait, c'est ce contexte.
Il y a
le contexte géopolitique, en fait, à prendre en compte. La Chine et la Russie, qui sont vraiment des mastodontes, hein, dans le monde. Et la Chine, qui je rappelle, est une dictature communiste. Qui est une dictature. Enfin, pas communiste, qui est une dictature. On va faire plus simple. Donc, c'est ce contexte qu'il faut prendre en compte. Donc, l'OTAN, évidemment, il est hors de question de dissoudre. Après, concernant les Américains, on sait très bien que les Américains interviennent dans le monde. Par intérêt, je rappelle en Irak, c'était pour le pétrole. Ils interviennent aussi en Somalie. On n'en fait pas tout un pataquès. Et que là, en fait, ils sont absents. Ils sont absents et même ils encouragent. Parce que quand Biden dit, en fait, avant que Poutine rentre en Ukraine, on va pas intervenir militairement, c'est du blanc-seing pour Poutine. Après, le problème, c'est l'arme nucléaire. Je crois que c'est l'arme nucléaire.
Justement,
je crois que c'est le point central.
Le président Zelensky demande de renforcer les sanctions contre Moscou. On va en parler parce que ça va toucher la centrale.
Je veux revenir à votre question, mais j'aimerais te poser une question sans contourner les choses. Mais quel est le but de l'OTAN? Quel est l'objectif? Étant donné que l'OTAN a eu un contexte historique, dans une période historique, en pleine guerre froide, quelle est aujourd'hui l'utilité de l'OTAN?
Non, mais l'OTAN, en fait, c'est ce que c'est, l'OTAN, c'est une alliance militaire.
Mais quelle est son utilité actuellement?
C'est protéger, en fait, faire des accords.
Donc, est-ce que tu considères que la Russie aujourd'hui est une menace pour l'Europe?
Mais la Russie a toujours été une menace. Je suis désolé de le dire. La Russie n'est pas une démocratie, ou une fausse démocratie, ou une démocratie vitrine. La Chine.
Il n'est pas d'accord avec vous, Mitch.
La Chine est également une menace.
Moi, je ne considère pas, en tout cas.
Je te rappelle qu'on est à, je sais pas, à combien de kilomètres, là, de.
Moi, je ne considère pas que la Russie est une
menace. Il peut dire que la Russie n'est pas une menace.
Je pense qu'aujourd'hui, la Russie fait partie de ce qu'on appelle le bloc Eurasie. C'est un pays qui, aujourd'hui, c'est un pays aujourd'hui européen.
Eurasie, non.
L'Eurasie, ce qu'on appelle le bloc Eurasie, ça a été terrorisé par Dimitriev, etc.
Oui,
Voldov, le philosophe russe. Non.
C'est Nostradamus qui a parlé de l'Eurasie.
Qui est proche de Poutine, voilà. Appuie à référence avec ouvrage, si tu veux. Mais c'est un autre débat, ça. Ça, c'est un autre débat géopolitique. Mais ce que je dis, moi, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, si la Russie est aux mains des Chinois, c'est à cause de qui? C'est à cause des Européens.
Non, mais c'est pas vrai, en fait.
Nous avons été incapables d'être sous la table des négociations avec la Russie, de proposer un accord avec la Russie, peut-être.
Bon, maintenant, on fait quoi?
Un statut membre observateur. Puisque nous avons des accords. La Russie.
Maintenant, attendez, messieurs.
Le président de la République a raison de discuter avec.
Dans le cheminement, s'il vous plaît, de la réflexion.
Pour pas l'isoler.
Du décryptage et de l'analyse. La centrale nucléaire la plus grande d'Europe a été touchée.
Oui, mais il n'y a pas. Enfin,
on est d'accord.
Faut pas s'inquieter.
Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas? Est-ce qu'il y a lieu de se dire à tout moment, on peut prendre. Non, mais on parle aussi de la bombe nucléaire. Donc, que fait-on aujourd'hui, Aklim Elouli? Est-ce qu'on peut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter?
Alors, bien sûr, s'il y a lieu de s'inquiéter, si effectivement, aujourd'hui, on avait pris le risque d'être des va-t'en de guerre, parce que c'est ça le but aujourd'hui.
Il y en a dans les médias.
Et
il y en a beaucoup.
Et si on prend le risque d'être va-t'en de guerre, parce que, en géopolitique, c'est terrible ce qui se passe pour le peuple ukrainien et pour y compris les soldats russes et les gens qui meurent, et voilà. Mais, à un moment donné, si on va dans l'escalade, on risque effectivement une guerre nucléaire et on met tous les peuples en danger. Alors, c'est terrible ce qui se passe pour le peuple russe, mais moi, vous me parlez, si vous voulez que je fasse du bon sentiment, je peux en faire, ou être de l'hypocrisie, mais en réalité, aujourd'hui, les pays ne peuvent pas rentrer. S'ils rentrent, et on déclenche une troisième guerre, et elle sera nucléaire pour le coup, et donc c'est tous les peuples qui en pâtiront. Et tous les peuples...
En rase, ou tout simplement l'Europe.
Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe est terrible. Moi, je me dis toujours, je n'étais pas aux négociations, donc je ne peux pas dire ce qui s'est dit, mais je trouve que ceux qui ont mené les négociations avant cette invasion, on fait ça n'importe comment. Et si les Russes sont rentrés, c'est qu'ils ont eu
une ouverture.
Donc à un moment donné, il faudra.
Maître David Lebesgue.
Je finis juste à dire.
Allez-y, messieurs.
Il faudra qu'à un moment donné, on ait fait toute la lumière. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre de communication. Chacun nous raconte ce qu'il a envie de nous raconter. C'est comme l'histoire. C'est le fort qui dit pour le faible. Donc moi, je voudrais bien tenir tous les aboutissants. Parce qu'en fait, ceux qui souffrent, c'est les peuples. Et le risque aujourd'hui, si on va dans l'escalade, parce qu'il appelle les sanctions, c'est pas rien, les sanctions. Les gens ont l'impression que les sanctions, c'est rien. Ça va toucher le peuple dans sa chair. Ils vont avoir faim, ils vont truc. Donc, à un moment donné.
Dans combien de temps? Dans 10 ans, peut-être, ça va.
Il y a des effets. Même nous, on sera touchés dans 10 ans. Déjà, à la pompe, vous avez qu'à regarder. D'ailleurs, les gilets jaunes que vous avez défendus, ils ont parlé du prix à la pompe. Aujourd'hui, le prix à la pompe, il est presque à 2 euros.
C'était avant, quand même, le conflit russo-ukrainien.
Oui, mais là, il y avait
2% d'inflation, 3% d'inflation.
C'est qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'effectivement, ceux qui aujourd'hui, essaye d'avoir à la fois une politique de fermeté sur les sanctions et à la fois de continuer le dialogue.
On me signale qu'on doit lancer la pub. Première tranche pub.
On ne peut pas condamner la Russie comme ça.
On se retrouve dans une poignée de minutes, s'il vous plaît, messieurs.
Ça sert à ça, la diplomatie.
Ne bougez pas, restez avec nous. Le débat continue. À tout de suite. 01 53 48 3000, on vous attend.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, le débat continue, hein, c'est chaud, je vous le dis, hein, 19h30.
C'est toi,
c'est ça, avec Aklim Elouli, avec
moi, je suis tout
maître
calme.
David
Lebesgue.
Oui, bien sûr, pourquoi?
Oui, non, mais je rappelle. Hein.
Je sais, mon cher
maître. J'ai un nom compliqué, je suis navré.
Non, j'ai jamais dit qu'il était compliqué, moi je le prononce très bien. Lebesgue.
C'est l'original.
Merci pour le thé à la camomille.
Et ensuite, après, donc.
Le thé pour la camomille, ça calme le thé à la camomille.
C'est ça, le thé à la camomille, voilà.
Le russophile.
Deuxième.
Non, je ne suis pas russophile, je suis Péophile, on peut dire ça?
Arrête,
c'est un nouveau nom.
Non, mais moi, messieurs, on se calme. On va aborder la paix. Ah oui, vous voulez faire un tour de table juste pour finir sur le nucléaire. On vous a pas entendu, maître Lebesgue, et ensuite Amit Shriev.
Alors le nucléaire, c'est quand même inquiétant. Mais bon, apparemment, concernant la centrale qui a été touchée là, qui est, je rappelle, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Alors, il y a eu un communiqué de l'Agence internationale atomique qui a dit que voilà, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais ça a pris quand même un tournant assez inquiétant. Et on espère que ça va en rester là et que, bien sûr, on est tous pour la paix ici, sur ce plateau. Et on espère que les négociations vont reprendre ou bien qu'il y ait un pays tiers qui va servir de médiation pour solutionner le conflit. Parce qu'il faut qu'on trouve une solution.
Et c'est bien.
Ahmed Shriet ?
Écoutez, je suis d'accord avec lui. Donc, il faut effectivement aujourd'hui négocier avec la Russie. Et je salue le président de la République Macron, parce qu'aujourd'hui, le président de la République
parle avec lui.
Non, mais attendez, il faut rendre, il faut dire les choses. Attendez, moi, je suis pour la paix aujourd'hui. Il y a quand même des gens qui meurent, donc soyons quand même sérieux.
Il n'a pas fait grand-chose, Macron.
Soyons sérieux quand même. Il y a des gens quand même qui sont sur le terrain qui meurent. Il y a des gens qui meurent sur le terrain. Donc, ayons quand même une pensée aux victimes. Voilà. En Ukraine. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, pour ne pas isoler
Poutine. Aux victimes russes, c'est aussi, hein.
Si je peux finir deux mots, merci. Pour que Poutine ne soit pas parano, puisque Poutine est dans une tournante de parano, Emmanuel Macron, aujourd'hui, construit le dialogue avec lui téléphonique, et c'est le seul chef d'État. Et si vous regardez bien lors de son discours, il n'a pas parlé de dictateur, comme par exemple les États-Unis, comme par exemple l'Angleterre. Et je crois que c'est une stratégie intéressante, pour le moins intéressante, pour pouvoir construire une paix. Le président Macron a raison, il faut maintenir le dialogue, maintenir un appel téléphonique pour ne pas isoler Poutine. Et je dois saluer ça parce que nous sommes pour la paix.
Voilà. Aucun chef d'État n'a traité Poutine de dictateur. C'est des personnes isolées ou
les Anglais. Boris Johnson a parlé du dictateur.
Est-ce qu'on peut
Biden aussi, etc.
Biden n'a pas parlé de. Il a parlé de dictateur.
Il a parlé de dictateur. Donc c'est pour ça que
Boris Johnson, il est très très loin dans son île.
Voilà. Donc il risque rien.
Attendez, ce qu'il faut saluer, c'est que le président de la République aujourd'hui continue ce dialogue-là, maintient la ligne téléphonique et Poutine répond au téléphone au président de la République.
L'enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est que vous ayez la bombe atomique ou pas, ça change tout. C'est-à-dire que les pays comme la Libye, la Syrie, qui n'ont pas de bombe atomique, on peut les envahir et donc ces trucs. Et quand vous avez la bombe atomique, avant de venir, on hésite parce que c'est une guerre nucléaire, ça n'arrange personne.
Comme la Corée du Nord.
Il est 19h28, comme la Corée du Nord, effectivement, qui est dotée désormais d'une bombe. Ils ont mis du temps pour l'avoir. Non, mais c'est vrai, mais ils l'ont eu depuis le début, d'ailleurs. Depuis le début, ils ont tenté, évidemment, de fabriquer cette bombe. Allez, messieurs, nous allons aborder ce second sujet. C'est celui de cette campagne présidentielle. Et ça y est, les secousses commencent, à prendre forme, puisque Sandrine Rousseau, exclue de la campagne de Jadot, des propos très critiques à l'égard de l'ex-candidate vis-à-vis de Yannick Jadot. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des règlements de compte. Messieurs, un tour de table, Maître Limenski, avant de retrouver le quoi de neuf.
Alors effectivement, je crois que ce qu'elle a dit dans Le Parisien, disant que les écolos ils vendent des chaudières, c'est ça. Mais elle a démenti. Hein.
Là, si elle les vend au gaz, c'est compliqué.
C'était des vendeurs de chaudières.
Voilà. Elle a dit à se mettre dans la roue de Macron, je ne vois pas ce qu'on gagne. Voilà, pour qualifier les positions de Yannick Jadot.
Ouais.
Moi, franchement, je me suis toujours demandé
vous vous demandiez quoi?
C'est ce qu'elle faisait chez les écolos. Mais chez les écolos, il y a deux lignes. Il y a la ligne libérale, disons, Yannick Jadot, qui pour moi est aussi pro-macroniste, hein, parce que vous verrez si Macron est réélu, Yannick Jadot, il va finir au gouvernement, hein, c'est certain. Et il y a la ligne Sandrine Rousseau qui se rapproche plus de la ligne de Mélenchon, peut-être, de la France insoumise, parce que ses revendications, c'est sur le contrat social, le féminisme, elle est très radicale dans son approche de l'environnement. Elle est ancienne candidate contre Yannick Jadot aux primaires écolo, elle avait fait quand même 49%. Donc en fait, elle représente quand même un courant fort de la mouvance écologique, mais effectivement, je pense que elle a pas vraiment sa place dans ce parti-là.
Elle a sa place dans ce parti. Nous allons entendre aussi les points de vue de Dakhli Mellouli et celui d'Amit Shriet. Pour l'heure, il est 19h30 et c'est le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Le Quad 9, vous le savez, comme chaque vendredi, c'est avec la signature du patron de l'opinion internationale, éditorialiste aussi, auprès des différents médias. Donc, c'est Michel Thau. Bonsoir, mon cher Michel.
Bonsoir, cher Adil, et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Et vous avez décidé de consacrer votre Quad 9 à la candidature d'Emmanuel Macron. On vous écoute.
Alors, effectivement, c'est presque un fait divers, parce que vu ce qui se passe en Ukraine et le contexte ambiant, évidemment, on savait qu'il allait se présenter cette semaine, vu qu'il y a l'échéance, depuis 18 heures, les parrainages sont clos et on connaît la liste des candidats. Mais finalement, c'est quand même l'événement du jour pour moi, parce que, effectivement, Emmanuel Macron est enfin candidat officiellement à l'élection présidentielle. Et je voudrais un tout petit peu parler de ce qu'il a écrit aux Français.
Oui.
En fait, il a adressé ce matin une lettre à tous les Français par la presse quotidienne régionale. C'est la deuxième fois qu'il écrit aux Français depuis qu'il est président de la République. Il avait déjà écrit en janvier 2019 Je ne sais pas si vous vous souvenez, au lendemain de la crise des Gilets jaunes, il avait fait un grand, grand discours, enfin une grande lettre aux Français qui avait lancé le grand débat national. Bon, bah là, c'est une deuxième lettre aux Français qui est beaucoup plus courte, plus concise. D'ailleurs, je trouve qu'Emmanuel Macron est de plus en plus bref et plus concis dans ses interventions auprès des Français. C'est au moins une chose qu'il a apprise depuis qu'il est président de la République. Et pour le reste, bah, écoutez, il a fait un petit peu un bilan de son quinquennat qu'il a un peu tiré à son avantage. Et puis, je pense qu'il a posé des jalons de son programme qu'il va décliner dans les prochaines semaines. Et pour résumer, j'ai envie de dire, bah, c'est du pur en même temps macronien, cette lettre aux Français. C'est-à-dire que les gens de gauche vont s'y retrouver, les gens de droite vont s'y retrouver. Oui, et c'est vrai que finalement, cette lettre aux Français, c'est un bon résumé de sa personnalité. Bref, pour résumer, c'est du Macron pur jus et ça nous annonce en fait une campagne somme toute assez terne, un peu insipide, où je pense qu'on ne parlera pas vraiment des vrais enjeux, parce que avec ce qui se passe en Ukraine, avec le fait qu'Emmanuel Macron est déjà donné gagnant et très largement dans les sondages, en une semaine il a gagné 3, 4, 5, 6 points selon les sondages. Et ben finalement, cette entrée en campagne, c'est une manière de dire, bon ben, ce sera moi le prochain président de la République.
Eh bien, dis donc, ça y est, vous avez quasiment annoncé, j'ai l'impression, le futur président de la République. Vous l'avez même, ça y est, propulsé d'ores et déjà.
Ah bah,
il faut quand même.
On n'a pas besoin de voter alors.
Non, bien sûr qu'il faut voter.
Ça, c'est Ahmed Chriel qui vous pose la question.
Il me connaît.
Et vous avez bien raison, il faut voter. Et c'est vrai que.
On n'a pas besoin de voter.
Non, mais très sérieusement, depuis une semaine avec la crise, si je peux ajouter mon cher Adil, depuis le déclenchement de la crise avec l'Ukraine, Emmanuel Macron s'est drapé dans le rôle du chef de guerre un petit peu. Et c'est vrai que comme souvent lorsqu'il y a un conflit majeur, bah, le peuple se met derrière son chef. Et c'est vrai que dans les sondages, il a gagné beaucoup de points depuis une semaine, beaucoup de points. Éric Zemmour s'est effondré. Et c'est vrai que sa candidature, c'est presque juste une formalité administrative qu'il a remplie, alors qu'en fait, on aurait pu espérer que ce soit l'ouverture d'un grand débat sur les enjeux de l'élection présidentielle. J'aimerais juste préciser que dans sa lettre aux Français, il ne parle pas de deux choses. Il n'évoque pas la réforme des retraites. Ouais. C'était quand même présenté au départ comme la grande réforme du quinquennat. Et bien là, il n'en parle pas du tout, ni pour parler de son bilan, ni pour annoncer que dans les 5 prochaines années, s'il est élu, il réformera les retraites. Et puis, il y a un mot qui est également complètement absent, c'est le mot laïcité. Il ne parle pas de laïcité, pas du tout. Ça n'est pas évoqué, je regrette un petit peu, parce que je pense que c'est quand même un enjeu important pour notre société. Mais à part ça, je pense que maintenant, la campagne est enfin officiellement lancée et qu'on va enfin pouvoir, je l'espère, si le conflit en Ukraine nous le permet, débattre des enjeux d'avenir pour la société française.
Merci pour cette signature du Code 9, mon cher Michel Taube. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien et puis on se retrouve vendredi sans faute.
Sans faute, merci à vous et mes salutations aux auditeurs de Beurre FM.
Merci à vous, le patron d'Opinion International, le média en ligne, mais également aussi, il est éditorialiste sur les plateaux de télévision et radio, notamment, que vous retrouvez. Merci Michel Taube, 19h35, on marque la pause pub et on se retrouve avec Sandrine Rousseau.
Et les socialistes
aussi. Attention, parce que Sandrine Rousseau, c'était quand même la conseillère spéciale d'Yannick Jadot. Hein.
Oui.
On ne parle pas de n'importe qui quand même, là.
Ils se tirent tous dans les pattes. C'est jeune moi non plus.
Vous parlerez de mon analyse, vous verrez.
Eh ben on verra. Allez,
Eric qui profitera de ça.
Les informés revient dans un instant. 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Débat continue, dernière ligne droite avec Akli Mellouli, avec Maître David Levinsky et enfin avec Amit Chriet. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Akli Mellouli? Vous voulez tacler quelqu'un, vous.
Jamais, je ne me permettrai pas de tacler personne. Juste que je vois que notre ami Chiriette est arrivé à fond sur les socialistes. Il est même venu habillé en rose. Et je me demande si ce n'est pas un socialiste refoulé ou une frustration.
C'est ça. Allez, mais... clochette, allez, yeah.
Il voulait sa punchline. Il l'a eu. Voilà.
Vous avez votre punchline sur le fond, monsieur.
Sur le fond.
Merci.
Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de me dire, est-ce que tel a sa place dans la gauche, etc. Ça me fait penser aux gens qui parlaient de gauche irréconciliable, etc. Le problème de la gauche, au-delà de Sandrine Rousseau, qui maintenant sont sur les médias, c'est qu'en fait, la gauche, depuis 30 ans, ne débat plus.
Le problème, c'est qu'il y a des tensions. Pourquoi les partis ?
Non, mais il y a un verrouillage. C'est justement, il y a un verrouillage du débat dans les appareils qui sont devenus, qui pensent à l'homme providentiel. Et ce qui fait que, alors que la gauche, c'est l'innovation, c'est le progrès, c'est la réforme. Et donc, on a besoin d'un projet, d'un programme.
Social.
On a besoin de se mettre mettre là-dessus. Et donc, comme aujourd'hui, il n'y a plus de débat, eh ben, le débat se fait à l'extérieur et dans les médias. Et donc, tout le monde y va de son idée et tout. Mais Sandrine Rousseau, elle représente quelque chose. On aime ou on n'aime pas, Sandrine Rousseau représente quelque chose. Elle a une voix, elle porte des choses. Et il va falloir qu'on accepte dans la gauche que d'autres, que ceux qu'on défend, etc., puissent porter des choses. Le problème, c'est que la gauche, de toute façon, doit se remettre au travail, elle doit repenser les choses, elle doit produire, et il faut aller vers un projet commun, parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de projet, la gauche n'est pas audible. La gauche, elle se bat sur un programme, et non pas sur un truc.
Et je finis.
Oui. Et quand on dit, parler d'écologie libérale, moi j'ai toujours un problème avec ces qualificatifs qui sont derrière, parce que, en fait, l'écologie libérale, c'est important, parce que le libéral, c'est le profit à court terme, et l'écologie, c'est un projet à long terme. Donc il va falloir faire attention quand on coupe les concepts, de ne pas de savoir de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, dans le débat public, et d'ailleurs dans les politiques qu'on a, on l'a vu sur le conflit, j'ai l'impression que quand même le niveau de débat est un peu bas, comme dirait de boulet crabe la mer monte, quoi.
Oui.
Amétrier.
On travestit ensuite les termes.
Maître David Lémy.
Écoutez, moi, en trois points. Première des choses, je pense que d'abord Sandrine.
Mais en rose.
Lors de la primaire.
En rose, il vous dit.
Oui. Lors de la primaire, Sandrine Rousseau représente une tendance qui est une tendance un peu mélanchoniste, il faut le dire, de façon très claire. Oui. 46%. Et je crois que. 49%, pardon.
49%. 48-97.
Voilà. 48-97. Donc, merci. Voilà pour la précision. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Sandrine Rousseau, effectivement, représente une tendance, et je pense qu'aujourd'hui, cette élection-là, je veux dire, ce basculement-là va profiter en réalité à Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Puisqu'elle s'aligne en réalité sur la politique. Et donc, ça va, on voit bien qu'il y a une dynamique de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, et ça va profiter en tout cas à Jean-Luc Mélenchon.
Et affaiblir donc Jadot.
Je ne parle pas du Parti Socialiste aujourd'hui qui est à 3%, Madame Hidalgo qui ne représente qu'elle-même. 2%, 3%, on va dire 1%, pour être gentil. Donc, et je crois que. J'ai pas le droit à une cloche, moi. Voilà, je vais en avoir
depuis
une.
Depuis tout à l'heure, je le voyais tourner, mais en rose, hein.
Mais attendez. Ouais, et donc, je crois qu'en réalité, ça va profiter à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon va être dans une dynamique de plus en plus forte, en progression, et on voit. Mais pour rebondir sur ce que dit Hakim Ilouli, il a raison aujourd'hui. La gauche doit se rénover. Quand on lit aujourd'hui, on voit les sondages, la première préoccupation des Français, c'est la question du pouvoir d'achat. La gauche a aujourd'hui un boulevard devant elle. Et je ne comprends pas pourquoi la gauche aujourd'hui était divisée, bien que ce débat ne concerne pas que la gauche, mais concerne aujourd'hui tous les partis politiques. Et quand bien même celui qui dirait qu'il rassemblerait tous les Français serait, je crois, dans une utopie, le président de la République, pareil, on voit bien que le taux d'abstention aujourd'hui est énorme. Peut-être qu'il va s'aggraver. La crise des Gilets jaunes aussi a permis une remise en question du régime et même de la démocratie, de nos institutions. Je crois qu'il va avoir de nombreux défis aujourd'hui à résoudre.
On n'a pas entendu.
Ça que la gauche doit faire. C'est de se rénover, réformer, se réinventer et laisser les nouvelles générations. Voilà.
Vous avez du boulot. Hein.
Donc, Hakim Ilouli doit laisser la place.
Hakim Ilouli, vous avez du boulot.
Maître David Lémesquine. Vous êtes déjà en rose, donc clochette.
Maître David Lémesquine.
Adil, non, ils n'ont pas de boulot parce que le Parti Socialiste, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus à gauche. Hein, ça fait quand même plus de 5 ans. Il y a 5 ans.
Ça,
non, il n'est plus à gauche. Non, depuis que François Hollande a gouverné la France. Il a fait pire que Sarkozy en matière de politique libérale. J'ai pas énuméré les mesures. Mais tu te rends compte que, en fait, c'est pas un raccourci.
C'est pour ça que ça fait 2%.
La gauche, le Parti Socialiste, il y a 5 ans, il a fait combien? 6%? Là, il va refaire
636.
Voilà, 636.
On a été remboursé.
Ouais, vous avez été remboursé.
C'est déjà ça.
Non, mais là, il est même pas sûr. Alors, d'après les sondages, hein, faut prendre les sondages comme ils sont. Mmh. Là, il va faire quoi? 2, 3, 4, 4%. Donc, le Parti Socialiste n'est plus la gauche. Aujourd'hui, et je suis pas du tout partisan de la France Insoumise, hein, mais aujourd'hui, la gauche, c'est la France Insoumise. C'est ni le Parti Socialiste, ni le Parti Communiste, qui, je rappelle, ont gouverné sous François Mitterrand. Il y a eu François Hollande. Et ils ont déçu, c'est tout. Et je pense que c'est même pas une question de débat d'idées, c'est que la gauche n'a pas d'idées, en fait. Monsieur. Parce que tu disais tout à l'heure, en fin de compte, c'est qu'il n'y a plus de débat d'idées, il y a juste des interventions télé, du buzz, etc. Non, force est de constater que le Parti Socialiste, aujourd'hui, n'a plus aucune idée progressiste.
Et j'aimerais rajouter très brièvement, on voit bien aujourd'hui qu'il y a aussi des ralliements au sein des grands teneurs du Parti Socialiste, Madame Elisabeth Kikou, Jean-Pierre Chevènement, qui se rallie au macronisme. Mmh. On voit bien au président de la République. Et enfin.
Réviste et fiche, j'invite parce que ceux-là étaient déjà avec eux en 2017, à part Chevènement. Ah oui. Mais Guigou et les autres étaient déjà en 2017.
Chevènement, c'est
des socialistes. Ils ont toujours leur carte Parti mais Socialiste. Voilà.
Ils doivent avoir des redressements fiscaux, je sais
dans
pas.
Dans ce cas-là, voilà. Dites au Parti Socialiste de les désabonner.
S'il vous plaît.
Ils ont toujours leur carte.
Je voudrais quand même qu'on traite de la candidature d'Emmanuel Macron. Les présidentielles, il dit je suis candidat, annonce Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français adressée à la presse régionale. Cette fois, c'est officiel, ça y est. Même si, évidemment, la guerre c'est en Ukraine, c'est elle qui occupe l'espace médiatique en ce moment. Messieurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, évidemment, ça a été extrêmement commenté. Et d'ailleurs, même, il se fait un peu tacler, ou beaucoup tacler, le chef de l'État, évidemment, avec cette candidature pour un second mandat. Je fais un tour de table. Aclé Mélouli. A-t-il eu raison de s'adresser d'abord à la presse régionale?
Voilà, donc je tiens à démentir les propos de mes collègues. Le Parti Socialiste est un parti de gauche quand il est socialiste. Sur Emmanuel Macron, il a fait du Mitterrand. En fait, aujourd'hui, les gens s'étonnent qu'effectivement, il s'est sur la tête française. On l'a bien vu, l'entrée en campagne, il s'est appuyé. On aurait pu dire De Gaulle pour une partie, mais là, sur la lettre aux Français, c'est plus du Mitterrand.
C'est du Mitterrand, oui.
Et donc, on voit bien qu'il tire les enseignements de ce qu'il a vécu. En fait, il profite du vide sidéral au métapolitique. Il a contribué, en fait, avec ce ni gauche ni droite, le nini, en même temps, a contribué à perturber tout ça. Mais la responsabilité est aussi portée par ceux qui se sont laissés perturber par ça. Au lieu de travailler, parce que quand on ne veut pas être perturbé, on travaille, on propose. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Personne propose. Et effectivement, il est obligé de rentrer en campagne parce que c'est aujourd'hui la deadline. À partir du moment où vous avez les parrainages, la dictature devait rentrer en campagne. Donc, je veux bien qu'on lui reproche de rentrer en campagne, il rentre en campagne. En même temps, effectivement, la campagne, la campagne va être compliquée parce qu'il y aura difficilement être audible puisqu'il s'est drapé dans effectivement ses propos. En fait, la France, c'est lui, si je résumais très vite son entrée en campagne. Et aujourd'hui, il essaie de l'incarner. Il a, comme en 2017, les planètes qui se sont alignées. Mmh. Il a la présidence de l'Union européenne. Il y a la guerre en Ukraine, ça lui profite. En fait, j'ai l'impression qu'il doit être né sous un bon signe parce qu'à chaque fois qu'il est candidat, tu as un alignement des planètes qui lui permet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va gagner, je dis, mais la campagne va être très compliquée pour les autres puisqu'aujourd'hui, les gens sont, comme le disait Michel, c'est vrai qu'on a ce culte du chef de se dire il va nous protéger, quoi. C'est un peu ce bouclier.
Il a eu un mauvais quinquennat parfois. Il a eu un très mauvais quinquennat.
Ah oui, mais
les gilets jaunes, la crise, Covid.
Le problème, vous savez que le problème c'est ça, c'est justement là ce que tu dis, parce que t'es quelqu'un qui a travaillé dessus, qui a regardé l'évolution. Sauf que les gens, malheureusement, c'est ça que je dis, c'est qu'on a perdu ce fond en politique, y compris on a perdu même les électeurs, parce qu'en fait, les gens ne retiennent dernier truc que ce qu'ils veulent retenir.
Maître
David Libenskind.
Espérons que ça va rester un fait divers, hein, voilà. Parce qu'il a fait quand même la guerre à l'intérieur du pays. Avec la crise des gilets jaunes.
Annoncer à la presse régionale a été le meilleur moyen d'annoncer.
Non, mais oui, c'est assez classique en fin de compte. Il est président sortant, donc il n'a pas besoin de faire un pataquès. Tout le monde savait que de toute façon qu'il allait être candidat. Et donc voilà, il l'a fait à la presse régionale. Ça, c'est assez classique. C'est assez classique, mais après, il n'est plus dans la position où il était en 2017. Il n'est pas l'homme politique nouveau. Hein, il traîne un quinquennat derrière lui. Il a fait la guerre à l'intérieur de son pays avec la crise des gilets jaunes, les manifs. Ouais. Pendant 4 ans, le pays a vécu sous le joug des manifs. Donc, il n'apparaît pas comme un homme nouveau. Donc, je pense que la campagne va être quand même compliquée pour lui.
Amé Chriette ?
Écoutez, moi je ne pense pas que ça a été une bonne communication, en tout cas le moyen de communication, s'exprimer dans la presse régionale. Je pense que lorsqu'on se présente à l'élection présidentielle, il faut valoir s'exprimer, faire un discours public, rencontrer des gens. D'abord, il n'y a pas une campagne sur le terrain, et ça je pense que les Français ne vont pas lui pardonner. Deuxième des choses, il va falloir faire le bilan, l'heure des comptes va sonner pour lui, et donc il va se confronter au candidat à l'élection présidentielle, et là il va falloir argumenter. Effectivement, écrire une lettre dans la presse régionale, c'est très facile. Se confronter avec des candidats de la carrure de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres candidats, ça va être très compliqué pour lui. Oui. Troisième des choses, la crise ukraino-russe, beaucoup de commentateurs disent que ça sera bénéfique pour lui. Or, je pense que c'est faux. Plus la crise continuera, plus les Français seront inquiets de voir qu'un homme qui est président de la République de surcroît, qui a la présidence de l'Union européenne, n'est pas capable aujourd'hui de rassurer les Français sur cette guerre-là. Puisqu'on parle de guerre atomique, etc., ça va porter en sa défaveur et à son image. Les Français aujourd'hui veulent un président qui rassure. Et enfin, je finis, la crise du blé va aussi participer à ça, et la crise du gasoil qui peut aussi engendrer du pétrole, une crise sociale en France extrêmement forte.
Akli Meloulik.
Et voilà.
Ce que dit Hamid, c'est pertinent, mais oui et non. Parce qu'en fait, moins il parle, plus il monte dans les sondages. Aujourd'hui, il va être obligé de parler. En fait, on va voir dans les jours qui viennent, c'est dans cette semaine qui va être cruciale pour lui, soit il infléchit. Et il a raison, effectivement, il va être interpellé par les candidats, sauf que la situation dans laquelle on est, je ne sais pas combien ça va durer, va rendre aussi inaudible les propos candidats, l'attaque sur le bien, tout ça. Il y a, et je le dis, c'est toujours très compliqué parce que, et tu disais, par rapport à la crise, il a déjà dans son discours anticipé, comme il avait fait sur la crise sanitaire, en disant quoi qu'il en coûte, quoi. Il l'a repris pour apparaître comme le président protecteur des Français. Il faut lire. Après, moi, c'est pas mon candidat, donc ça tombe bien. Mais moi, je dis que on va voir dès que ça va commencer.
Pourquoi ça tombe bien ? Pas forcément.
Non, ça tombe bien s'il chutait, comme le dit notre ami Hamid.
Anne Hidalgo, ton candidat, non ?
Bien sûr, c'est Anne Hidalgo, j'assume complètement. Je la soutiens. Je suis loyal au deuxième tour.
Mais déjà, faut qu'elle aille au deuxième tour.
Ce sera le candidat de gauche, s'il y a un candidat de gauche.
Elle va appeler à voter qui ? Macron au deuxième tour ?
Non, mais messieurs, ne nous énervons pas. Soyons, si les gens veulent mettre un candidat de gauche au deuxième tour.
S'il y a Macron, Le Pen, elle appelle pour voter Macron, non ?
Elle appelle, je ne sais pas, il faudra lui demander à elle. Moi, je sais ce que je ferai. Moi, je
sais tu fais partie du Parti Socialiste encore.
Commençons pas à créer des scénarios.
Là, vous êtes en train de créer des scénarios.
Voilà.
C'est comme les gens qui sont dans le virtuel. Soyons
déjà. Moi, j'aimerais juste rebondir sur
le premier tour. Donc, je finissais sur l'entrée campagne de Macron dans une semaine. Et moi, je pense que le deuxième tour.
Allez, rapidement, il y a Maître David. Et ensuite.
Ce qu'il faut dire. Pour revenir sur ce qu'a dit Akli, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit effectivement cette tendance-là, mais moi je pense aujourd'hui que les Français, en dernière instance, vont demander à Macron des comptes sur leur pouvoir d'achat et ce qu'ils remplissent sur leur frigo. Et excusez-moi un peu, les gens sont un peu égoïstes, ils ne pensent pas à la guerre ukraino-russe, ils pensent à ce que leur frigo est-il rempli ou pas. Et c'est normal. Et donc je crois que la stratégie de l'Élysée se trompe complètement, elle va droit dans le mur. Et
je vous le dis, le pouvoir d'achat, moi je crois plutôt que les Français s'inquiètent sur leur reste à vivre. Parce qu'il y a des gens qui avancent le 20 du mois, maintenant c'est le 15, c'est arrivé le 10, les gens vont avoir, et avec l'inflation, ils vont avoir du mal à boucler les fins de mois. C'est le reste à vivre. Le pouvoir d'achat, c'est une chose, le reste à vivre, c'est autre chose.
L'avenir.
Voilà. Et c'est le reste à vivre aujourd'hui qui pose. Parce que l'histoire du pouvoir d'achat, on dit qu'on leur donne du pouvoir d'achat, mais en fait, quand on regarde dans le reste à vivre, il n'y a plus rien.
Merci à Maître David Levinsky. Merci à Amine Chriette, débat extrêmement animé.
Amine est en forme aujourd'hui.
Je sais qu'au Parti Socialiste, il n'y a pas de démocratie. Prenez la parole et soyez démocrate.
Dans une poignée de minutes, de 20h à 21h, avec ses chroniqueurs débatteurs qui viendront commenter l'actualité sportive. Merci à la réalisation, à Yanis. Merci à vous, je vous souhaite un excellent week-end.
Merci à John Barlow.
Il l'a dit.
Merci à vous.
À lundi, passez un bon week-end avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.